chaque
Après
fois,
une interruption insupportable, très dure, finalement, ben je crois que nous pouvons reprendre notre optimisme et nous y mettre.
Et bon, on est parti. En
Voilà, on ne
attendant.
s'est pas rencontré depuis l'année dernière, donc oui. On va continuer, donc je pense, l'étude du Likutei Moharan, je pense que c'est très bien, et que nous en sommes à la Torah numéro 7, la huitième. Et le seul problème qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas encore présente sur, voilà, ça y est, elle y est sur l'écran. C'est une dracha qui, en principe, se réfère à la haftara de Hanouka, mais qui, en fait, parle de tout à fait autre chose. C'est le verset de Zecharia qui est amené en haut, Raïti vine menorat zav kula vegula al rocha. J'ai vu un candélabre d'or, entièrement fait d'or, qui, avec une source sur sa tête, Veshiva, Shiva, Nerotea, Mutsakot, je vous cite la suite du verset qui n'est pas imprimé, et avec 7 fois 7 lampes qui sont coulées dedans, la Nerot Asher Al-Rosha, pour les lumières qui sont sur sa tête, Ushnaim Zetim Alea, avec 2 oliviers au-dessus d'elle, Echad Mimin Agula, Echad Al-Semola, l'un sur sa droite et l'autre sur sa gauche. Et là, bon, donc c'est une vision qu'a le prophète. Le prophète donc voit un candélabre à 7 branches. Il voit une source au-dessus du candélabre. Goula, c'est une source. Il voit également 2 oliviers, pas des branches d'oliviers, mais des vrais oliviers, des arbres. Et c'est ce qui a inspiré d'ailleurs l'emblème du président de l'État d'Israël. Avec 2 branches d'olivier, mais en vérité, ce sont 2 oliviers. Et après, l'ange dit au prophète, ça, c'est les paroles de Dieu pour Zorobabel. Zorobabel, qui était le dirigeant politique des rescapés de l'exil qui étaient revenus de Babylone à Jérusalem à l'époque de Ezra. Et, attendez une seconde, et il lui dit, Lo bechayil velo bechoar kimberuchi amar Hashem Tsevaot, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà. Bon, alors tout ça tourne autour d'un élément intéressant, le soupir. Voilà, c'est ça. Le soupir est une forme de la respiration. Et c'est ça qui va être étudié dans ce texte relativement long. Et vous savez que dans la médecine chinoise, il y a une des formes de la respiration qui est justement un très long soupir que l'on fait intervenir lorsqu'on se sent faible. Et ce soupir permet de retrouver des forces. Voilà, ça c'est une des respirations chinoises. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant de voir qu'il y a une correspondance avec l'enseignement de Rabbi Nachman, mais dans une optique évidemment chassidique. On va voir ça tout de suite. Iné yakar genuche venoa meish haYisraeli. C'est cher, yakar, au sens de cher. Genouche venoa, les soupirs et les lamentations. Chez Corinne Kreertz, que l'on appelle en yiddish du nom de Kreertz, Meisha Israeli, d'un homme d'Israël. Kihu shlemut achesronot, parce que cela vient remplir les manques. Et si je manque de quelque chose, je soupire. Il y a une expression proverbiale. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Ki al yedei bechinat haneshima shehu ruach chaim nivra haolam, car c'est par une respiration, un souffle de vie que le monde a été créé. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, uvruach piv kol tzevaam, par le souffle de sa bouche toutes leurs armées. V'chidush ha'olam yeh gamken bifrinat ha'ruach, et le renouvellement du monde se fera également par un souffle, que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Teshallach ruchacha, tu enverras ton souffle, yibar e'un, ils seront créés, uthaddesh pene adama, et tu renouvelleras la face de la terre. Ve'u gamken chiyut ha'adam, et c'est également la vitalité de l'homme, ki chiyut ha'adam ou aneshima, parce que la vitalité de l'homme, c'est la respiration. Kemo shel katuv, ainsi qu'il est écrit, vaipar peapav nishmat chayim, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, urtiv, et il est dit, kol asher nishmat ruach chayim peapav, tout ce qui possède un souffle de vitalité, de vie dans ses narines, urmo she'amur chachamim, et comme on dit des sages, Im tersar aneshima, tersar achaim. S'il manque la respiration, il manque la vie. Cette citation n'existe nulle part. Nimtsa, il ressort, ki ikar chiyut kol adevarim ou bifrinat ruach, que l'essentiel de la vitalité de toute chose, c'est dans le souffle. Urcheyesh chisron be'ezedaba, lorsqu'il manque quelque chose, le manque vient essentiellement de l'absence de vitalité de cette chose, qui est le souffle de vie de cette chose, la chair a ruach ou amekayem adavar, parce que c'est le souffle qui soutient la chose, ve'anacha, et le soupir ou arichat aneshima est un prolongement, est un allongement de la respiration. Ve'u bifrinat erech apaim, et c'est ce qu'on appelle dans les 13 attributs de miséricorde la longueur des narines. De'aynu ma'arich ruche, c'est-à-dire donner la longueur à son souffle. C'est pour ça, lorsque l'on soupire à cause d'un manque et que l'on allonge sa respiration, ça amène un souffle de vie à ce qui manque. Parce que l'essentiel du manque, c'est l'absence du souffle de vie. Et c'est pour ça que grâce au soupir, on complète ce qui manque. Bon, alors je pense que c'est du chinois et nous allons peut-être expliquer ce qu'il veut dire.
Alors,
oui.
Vous avez dit qu'il cite de nulle part quelque chose qui est cité, j'ai pas compris.
Oui, là il dit Urmo she'amu chachamim, et comme on dit les sages, c'est à la dixième ligne à peu près. Im tersar aneshima tersar achaim, s'il manque la respiration, il manque la vie. Ça, c'est comme si c'était une citation. Cette citation n'existe pas. Heureusement que notre rabbin parle couramment chinois. C'est vrai, c'est très très bien. Et donc, voilà, maintenant je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'il veut dire. Il y a cette idée que il y a dans toute chose l'être et le surplus d'être. Il y a le fait même de l'existence. J'existe, c'est une donnée, mais cette donnée est absolument décevante. Elle n'amène à rien. Il faut qu'il y ait un souffle. Et le souffle, c'est ce qui donne un sens, qui donne une signification à l'être. Et il y a dans tout être un élément qui est en mouvement. Alors, dans l'homme, c'est la respiration. Dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle le souffle de l'histoire. On pourrait dire le vent. D'ailleurs, c'est, je crois, Boujna qui posait la question de savoir d'où vient le vent. La vraie question, c'est pas d'où est-ce qu'il vient, mais où est-ce qu'il va. Et c'est ça que dit ici Rabbi Nachman. En fait, quand je soupire de quelque chose, je pourrais dire, mais pourquoi soupirer? Alors que je vis, j'existe, j'ai mes biens, J'ai mon existence. Oui, mais cette existence est insuffisante. Il y a une frustration, un sentiment, de frustration, disons d'insatisfaction. Je suis insatisfait de la situation. Et donc, je veux ramener du souffle pour donner vitalité à cette réalité manquante dans laquelle je vis. Il me manque quelque chose et ce manque est rempli par le soupir. Le soupir amène un surplus de vitalité. Ce n'est pas, disons, une lamentation, c'est beaucoup plus que ça, c'est un surplus de vitalité. Pour mieux comprendre ça, je voudrais me référer au fameux Midrash qui parle de la manière dont Abraham a découvert Dieu. Alors, souvent, on explique, ce qui est à mon avis erroné, qu'Abraham était un philosophe et qu'il s'est interrogé sur la cause première de tout être et qu'après une réflexion philosophique, il est arrivé à la conclusion qu'il y a un premier moteur, qu'il y a donc une force suprême, un Dieu, qui est l'auteur du monde. Voilà, c'est ça que l'on a l'habitude de dire d'Abraham. Mais si on examine précisément et attentivement ce que dit le Midrash nous dit que Abraham était insatisfait. Il a pensé d'abord que le soleil était Dieu, puis après que c'était la nuit, puis que c'était la lune, puis qu'il y a eu les nuages, que c'était les nuages qui étaient Dieu. Et après, il a vu que le vent dispersait les nuages et que ce vent était peut-être Dieu. Et après, il a découvert qu'il y a un souffle dans l'homme lui-même. Donc, le souffle ou le vent ne peut pas être Dieu. Et alors, il est arrivé à la conclusion d'un doute. Il a dit « Efchar birazo belo manig ». Peut-être que cette forteresse n'a pas de dirigeant. Ce qui veut dire que soit il est arrivé à l'athéisme, soit, ce qui est plus probable, il est devenu agnostique, c'est-à-dire il ne sait pas. Et comme il ne sait pas, il a laissé en lui un vide, un lieu creux dans son être qui exprime son insatisfaction. Il n'est pas rempli par le monde. Et c'est alors que le Midrash dit « Hetzit salav ba'alabira ». C'est pour ça que le maître de la forteresse lui a fait un clin d'œil et lui a dit « Ani ou ba'alabira, c'est moi le maître de cette forteresse ». Donc, la connaissance du Créateur vient justement, d'après le judaïsme, non pas par une réflexion intellectuelle, mais au contraire par une déception. Et cette déception crée un vide et ce vide se remplit. Et c'est ça ce que Rabbi Nachman appelle le souffle que l'on veut amener en soupirant. Et en soupirant, je participe de ce sentiment de frustration universelle et donc mon manque se remplit. Voilà. Ça, c'est donc le premier point. Mais la question se pose, comment arriver à recevoir ce souffle de vie? Ce n'est pas simplement une technique respiratoire. Il faut avoir une source à laquelle on doit s'alimenter. Où elle est cette source? Alors là, Rabbi Nachman, en vrai chassid, nous dit « Ach, me'ayin mekablim ruach ha'chaim » Mais d'où reçoit-on ce souffle de vie? Da, sache, she'ikar ha'ruach ha'chaim, que l'essentiel du souffle de vie, mekablim me'atzadik ve'arav shebador, on le reçoit du juste et du maître de la génération. Ah bon? Pourquoi? Tout simplement, ki ikar ruach ha'chaim ubeha Torah. Parce que l'essentiel du souffle de vie vient de la Torah. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que la Torah serait l'ensemble de tout ce qui est vivant? La réponse est non. Mais la Torah, la Torah, c'est ce souffle central, c'est-à-dire cette projection qui est envoyée dans notre monde pour l'illuminer. Et donc, si je cherche un souffle de vie, je dois le retrouver dans la Torah. Alors, à nouveau, il y a ici une question, jusqu'à ce que Abraham se dise que peut-être... Attendez, il y a ici plusieurs questions, je ne sais pas. Mais c'est très bizarre que jusqu'à ce que Abraham se dise peut-être qu'il n'y a personne, alors il lui apparaît. C'est assez contradictoire, vu qu'on a l'habitude de dire que la rencontre divine se trouve justement au moment où l'on s'ouvre le plus possible pour recevoir cette parole. D'accord, mais comment savoir que cette parole existe? Il faut d'abord être insatisfait de ce que le monde peut nous donner, et à partir de là, on peut arriver à l'origine du monde. Mais si je n'ai pas cette insatisfaction, je me nourrirai de ce que le monde me donne. C'est une sorte de panthéisme qui fait que j'identifie la vitalité avec l'univers. L'idée qu'il y aurait une transcendance, c'est-à-dire qu'au-delà de l'être, j'aurais un contact avec l'au-delà de l'être, ça c'est particulier à Abraham et à sa descendance. Donc, je reviens ici au texte, mais Aïn Mekablim Aruachaim, d'où est-ce qu'on reçoit ce souffle de vie? Dashiikar Aruachaim Mekablim Matsadik Varav Shevador. L'essentiel du souffle de vie, on le reçoit du juste et du maître de la génération. Kiikar Aruachaim Aruachaim Uba Torah, parce que l'essentiel du souffle de vie, c'est dans la Torah. Kemoshe Katuv, ainsi qu'il est dit. Veruach Elohim merachefet al pene hamaim, le souffle divin planait sur la face des eaux. Ou à Torah, qui est la Torah. Où est-ce qu'il a été chercher tout ça, qu'il s'agit ici de la Torah? Ça veut dire que le mot maim, ici, l'eau, désigne la Torah. Il y a un midrash qui nous dit en maim et la Torah. Il n'y a d'eau que la Torah. Et le mot ici, péné, ne veut pas dire la face des eaux, mais ça veut dire l'intérieur de l'eau. Péné, dans le sens de pnim, de l'intérieur. Donc il y a un souffle divin qui plane dans l'intérieur de l'eau. Ou à Torah, qui est la Torah. Ve'at tzadikim, devekim batorah. Or les tzadikim sont attachés à la Torah, ils adhèrent à la Torah. Alken. Voir Elohim, ce n'est pas le Mashiach, c'est un autre midrash. On ne peut pas faire tous les midrashim à la fois. Ve'alken, ikar ruach ha'chaim ou etzlam. L'essentiel du souffle de vie est chez eux, chez les tzadikim. Urshiu mekushar le tzadik ve'arav shebador. Et lorsqu'on est lié au juste et au maître de la génération, keshehu mitaneach. C'est alors que lorsque l'on soupire et que l'on allonge sa respiration, c'est alors que l'on amène un souffle de vie qui vient du juste de la génération, qui est lui-même collé à la Torah, où se trouve le souffle. C'est la raison pour laquelle le juste est appelé Ish Asher Ruach Bo, un homme dans lequel se trouve le souffle. Sheyodea lahalor neged rucho shel kol echad ve'echad, qui sait marcher face au souffle de chacun. Kemo shepiresh Rashi Sham, comme l'a expliqué Rashi là-bas. Ki atzadik mamshich u'mashlim aruach chaim shel kol echad ve'echad kanal, parce que le tzadik amène un complément de souffle de vie pour chacun en particulier. Alors, ça veut dire c'est quoi le tzaddik ou le rabbi de la génération? C'est celui qui a la capacité de vivifier chaque individu de sa génération à sa manière. D'accord? C'est extrêmement particulier d'avoir cette capacité de s'adapter à l'exigence, à la nécessité de chacun. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des tzadikim de ce genre sont capables d'avoir cette capacité d'inclure en lui toutes les manières d'être. Alors, ce n'est pas de la tolérance, c'est bien au contraire. C'est la reconnaissance de la pluralité des identités, même s'il n'y a pas pluralité des opinions. Je dis ça parce que souvent, on a pu dire, par exemple, de quelqu'un comme Manitou que Manitou était pluraliste. C'est totalement faux. Manitou connaissait la pluralité des identités, mais l'unité de la vérité. Et c'est un peu ce que fait le tzaddik dont parle Rabbi Nachman. Il possède la vérité de la Torah et il est capable de donner la dose nécessaire à chacun à part son appartenance à la Torah. Et ça se passe grâce au soupir. C'est-à-dire le soupir que j'ai quand je suis lié au tzaddik fait que j'entre en relation entre le tzaddik et moi-même. D'accord ? Je ne peux pas ne pas penser ici à la personnalité du Rav Drukman Zichonovra qui nous a quitté la semaine dernière et qui était un peu de ce genre. C'était un personnage klal israéli, dans le sens où il appartenait à tout le monde et savait trouver le langage particulier qui était nécessaire à chacun. Il y a ici Ruach Elohim, ça j'ai déjà répondu.
Ah.
Oui.
Est-ce qu'on a un exemple dans le Tana ou dans la Gemara de quelqu'un qui était Tzadik Shalador? Tzadik Ador?
Oui. Moshe.
Mais c'était le Rav Ador, c'était le Rabbi.
Et alors, quelle est la question?
Est-ce qu'il y en a un qui n'était pas Rav, mais qui était Tzadik Shalador?
J'en sais. Non, je ne pense pas. En tout cas, le Talmud n'avait pas ce genre d'exemple. Vezé Bechinat, Ruach Tsefonit, Amenachevet Bakinor Shel David. Et c'est ça que veut dire le vent du nord qui soufflait dans la harpe de David. Le mot kinor aujourd'hui veut dire un violon, mais à l'époque du Tanakh, le kinor c'est une sorte de luth. Il y a ici une question. Yitro peut-être l'était. Très bonne question. Donc maintenant je reviens à le tzaddik qui est le souffle que donne le tzaddik correspond au vent du nord qui souffle dans le luth de David. C'est quoi ce vent du nord? Alors il explique c'est une parabole. Qui nord chez David, car le luth de David, Aya shel Hamesh Nimin, comportait cinq cordes. Keneged Hamisha Chumshe Torah. Ça veut dire que c'était en rapport avec les cinq rouleaux de la Torah. Donc ça veut dire qu'il était attaché à la Torah en tant que tzaddik ador. Veruach Tzafon Shaita Menachevet Bo, et le souffle du nord, le vent du nord qui soufflait dedans. Ubichinat Veruach Elohim Merachevet Alpene Amaim. C'est comme ce souffle divin qui plane dans l'intérieur de l'eau anale dont nous avons parlé plus haut, c'est-à-dire il possède en tant qu'appartenant à la Torah, il possède ce souffle qui donne la vitalité à chacun. Et pourquoi ça s'appelle le vent du nord? Qui ruach tsafon, quand on dit le vent du nord, ou bichinat ruach tsafun belibo shel adam, c'est le souffle caché dans le cœur de l'homme. Tsafon. Tsafoun. Tsafoun veut dire le nord, Tsafoun veut dire caché, c'est en fait la même chose. Pourquoi est-ce que le nord est appelé Tsafoun? C'est parce que c'est là que le soleil se cache. Le soleil se lève à l'est, il monte au sud à midi, il descend à l'ouest. Le nord n'est jamais illuminé par le soleil. Ah, donc Tsafoun, ça correspond à ce qui est caché. Dans l'homme se cache un souffle de vie, Shu Bechinat Aruach Chaim, qui est ce souffle de vie. Qui tsafon chaser, parce que le mot tsafon est écrit sans vav d'habitude, c'est-à-dire il est manquant. Et le tsafon, le nord, c'est représente ce qui manque. Vachisaron ou balev, or le manque est dans le cœur. Kemo shekatu viiten lecha mishalot libecha, comme dit l'écriture, il te donnera les désirs de ton cœur. Yemale Hashem kol mishalotecha, et Dieu remplira toutes tes requêtes. Veikar ruach chaim ubalev. Or, l'essentiel du souffle de vie est dans le cœur. Urmo shekatu betikune azohar. Ainsi qu'il est écrit dans le Zohar. Kolho shaifin mitnagin batar liba kemalka. Tous les organes se comportent à la manière se comportent selon les instructions du cœur qui est comme un roi. Kema de Atamar, ainsi qu'il est dit dans Ézéchiel, et la chair yesha maruach la lechet yelechou. Là où va le souffle, c'est là qu'ils vont. Ki a ruach ou balev, car le souffle est dans le cœur. Vachisaron ou Istalkut Aruar. Or, le manque, c'est le départ, c'est l'absence du souffle, chez Mekomo Balev, qui est dans le cœur, Valken Irgash Achisaron Balev, c'est pour ça que le manque est ressenti dans le cœur. Valken Keshinit Malach Isaron Shubrinat Aruar Kanan, c'est pour ça que lorsque le manque, qui est le souffle dont nous avons parlé, est rempli, chez Neymar Viten Chamishalot Libera, lorsque s'accomplit que Dieu donnera les désirs de ton cœur, Yemale Hashem, et qu'il remplira tes demandes. Alken, Israël, Shem Ekavim, Aruar Chaim, Mea Torah. C'est pour ça qu'Israël, qui reçoit le souffle de vie de la Torah, Nikraim, Al-Shem Tsafon, sont appelés le Nord. Kemo Shekatuv, ainsi qu'il est dit, Alamcha Yarim Usod, Veitiatsu, Al-Tsefunecha. Ils vont se réunir contre ton peuple, ils prennent conseil contre tes tsefunecha, ceux qui sont cachés en toi, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Donc on voit que l'expression tsafon désigne également les enfants d'Israël. Donc ce que nous dit aussi en substance Rabbi Nachman, c'est que on a besoin d'un souffle de vie, c'est ce qui s'exprime dans le soupir, et que ce souffle de vie se remplit vient de par la force de l'attachement au tzaddik qui est attaché à la Torah. Et quand on est attaché à la Torah, on est habité de ce souffle qui permet d'alimenter la nécessité, les besoins de chacun séparément. Rucho shel kol echad ve'echad. Et c'est ça qui est appelé le vent du nord qui soufflait à travers les cordes du luth du roi David. Voilà. Bon, donc jusque-là, pour l'instant, c'est du classique. Mais là se pose la question. On a dit que c'est la Torah qui donne le souffle de vie. Or, nous voyons dans le monde qu'il y a parfois une grande satisfaction chez ceux qui, non seulement n'ont pas de Torah, mais ceux qui sont les ennemis de la Torah. Eux aussi ont leur vitalité. D'où vient cette vitalité? Et ça, c'est le sujet du troisième paragraphe. Ach, Rechaim, mais les méchants. Adovrim al tzadik attaque Begava Bavouz, qui s'oppose au juste avec orgueil et mépris. Mais Aïm et Kablimem Aruach, l'Ashlimach Isaron, d'où est-ce que eux reçoivent leur souffle pour compléter leur manque? Ça, c'est tout à fait caractéristique de Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman voit un opposant, la question qu'il se pose n'est pas comment réfuter l'opposant, mais essayer au contraire de le comprendre. Une fois que j'aurai compris mon opposant, j'aurai donc découvert l'étincelle de vérité qui se cache en lui, et donc ce qu'il y a de faux en lui tombera tout seul. C'est un peu une idée d'ailleurs qui est reprise par le Rav Kook, que dans le débat entre les opinions, il est important de dévoiler le sens de l'opinion que l'on essaye de réfuter. Et c'est donc, c'est-à-dire, c'est un peu utiliser la force de l'adversaire, un peu comme dans le judo. Dans le judo, vous employez la force de l'adversaire pour le vaincre. Alors là aussi, c'est la même question. D'où est-ce que les réchaïms, les méchants, tirent leur force? Eux aussi sont animés d'une puissance de vie. Et on voit la vitalité des Réchaïm. Et là, le Chidouche, l'innovation extraordinaire, Arda, mais sache, chez Yesh Rav des Klipa, qu'il y a un maître dans l'écorce. La Klipa, l'écorce, désigne les forces du mal. Chez les Kabbalistes, c'est-à-dire le monde est fait de lumière et d'écorce, la lumière étant le réceptacle, étant le, disons, le lieu de résidence de la sainteté, mais il y a autour ce qu'on appelle une clipa. La clipa est une écorce. L'écorce permet à la fois de protéger, mais elle s'alimente aux fruits qu'elle entoure. C'est-à-dire, si vous prenez une orange, par exemple, eh bien, vous aurez l'intérieur du fruit et vous aurez la pelure. Vous aurez la peau de l'orange. Alors, la peau de l'orange, en général, on ne la mange pas, si ce n'est pas de la confiture. Et Donc, mais de quoi vit cette peau de l'orange? Eh bien, elle vit de l'orange elle-même. Mais elle est à la fois protectrice et aspirante, c'est-à-dire c'est elle qui va épuiser la force du fruit également si on lui donne trop de place. Et donc, se dit ici Rabbi Nachman, il y a un rave dans la klipa, il y a un maître du côté du mal. Vehu bechinat Esav, il est comme Esav. Que Moshe katou be Esav, ainsi qu'il est dit à propos de Esav, ça c'est un jeu de mots de Rabbi Nachman, yeshli rav, j'ai un maître. C'est-à-dire, quand Esav dit j'ai beaucoup, yeshli rav, alors pour Rabbi Nachman, ça veut dire j'ai un rav, c'est-à-dire j'ai un maître. Il y a un maître chez Esav. C'est-à-dire que si on parle de conflit de civilisation ou de conflit de religion entre Israël et Esav, au niveau de la civilisation, c'est la civilisation occidentale, au niveau de la religion, c'est le christianisme. Il faut, dit Rabbi Nachman, prendre ça au sérieux. C'est-à-dire le maître du côté de l'opposant n'est pas un minable. Bien au contraire, c'est un maître. Ve'u bechinat aloufé Esav. C'est de eux dont on dit ce sont les chefs de Esaü. D'ailleurs, c'est comme ça que traduit l'araméen Unkelos, Ravrevé Esav, les grands d'Esav. Vous voyez que le mot Ravrevé ressemble au mot Rav. Bechinat Rav Diklipa, c'est le Rav du côté de l'écorce. Umehem Kablim Arishaim Ruach. Et c'est de cela que les méchants reçoivent leur souffle. Et où Bechinat Wachatum'a, et c'est ce qu'on appelle le souffle de l'impureté, Bechinat Ruach Se'ara, qui est le souffle de la tempête. Le souffle de la tempête, Ruach Se'ara, est mentionné dans le livre d'Ézéchiel comme étant une des forces du mal. Kemo Shekatoub, ainsi qu'il est dit, En Esav Achi Ish Sa'ir, voici que Esav, mon frère, est un homme velu. Alors, le mot « sa'ir », qui veut dire qui est velu, qui a des poils, ça vient également du mot « se'ara », qui veut dire la tempête. C'est-à-dire, c'est l'homme de la tempête. « Ve'alken aruach shelahem »« Gadol ve'takif lefisha » C'est pour ça que leur esprit est grand et puissant momentanément. « Kemo ruach se'ara » Comme le souffle de la tempête. « Sheu gadol ve'sha'ato » qui est grand au moment de la tempête. Et une tempête, ça passe. Mais au moment où ça passe, au moment où elle se produit, la tempête, elle est forte. Ve'alken, c'est pour ça qu'il est dit, kol tzorera biyafiach bahem. Tous ses ennemis soufflent en lui. Il soufflera en eux, pardon. Yafiach davika, c'est-à-dire il devra souffler contre eux. Chez Midgaber Aliem, elle est déprinat ou arpive, c'est-à-dire qu'il peut les contrer par le souffle de sa bouche. Chou Gadol Bechaato, qui est grand en son temps, arche en lokium klal, mais qui n'a pas de permanence, ulvas velasof kale veneemad, unsaer gufe venishmate, et finalement il va à la perdition, est emporté dans la tempête, le corps et l'âme. Ainsi qu'il est dit, on chalem les sonéav, il paye à ses ennemis, el panav les haavido vers leur face pour les perdre, ou meshalem, ça veut dire quoi? Il paye les shon shlemut achisaron shelim shachlo, c'est-à-dire le remplissage du manque qu'il s'attire, de aïnu bechinat aruchat aruar, c'est-à-dire l'allongement du souffle. Vezé el panav, et c'est pour ça qu'il dit vers le visage, ki panav ou prinat avoir, parce que le visage, c'est le lieu du souffle, kemo shekatou, ainsi qu'il est dit, akarat penehem anta bam, ainsi qu'il est dit, c'est la face de leur visage, la forme de leur visage qui témoigne contre eux, ze achotem, qui est le nez. Shu bechinat aruar qui porte en lui le souffle que Moshe Katou va y par beapav nishmatraim car il a insufflé en lui dans ses narines un souffle de vie kol asher nishmat ruach haim beapav et tout ce qui porte un souffle de vie dans ses narines Achulea avido, mais c'est pour le faire perdre. Kiaf shugadol ifisha'a, desof nevat kanal, car bien qu'il soit grand à son moment, finalement, il disparaît. C'est bon. Alors, essayons de résumer très rapidement ce qu'il dit. Il dit, il y a un souffle chez les Rechaïm, et ce souffle vient lui aussi de Dieu. Mais c'est un souffle qui est tempétueux. C'est une tempête, et cela est fort momentanément, mais disparaît dans le prolongement de l'histoire. C'est pour ça qu'il est dit dans le Talmud de Jérusalem que Dieu allonge son visage pour les méchants, c'est-à-dire qu'il a de la patience. Parce que le souffle de la respiration, c'est la patience. C'est-à-dire qu'il il reporte son courroux, mais finalement fait payer sa dette. Qui af chez les fichas ruach gadol vetakif, car bien que pour un moment ce souffle, ce vent est grand et fort, bifrinat mari chape, parce qu'il ressemble au souffle qui s'allonge, ach levasof gabe dile canal, mais finalement il devra payer sa dette. Valken Nikraim Israël, Aniya Sohara. C'est pour ça que le peuple d'Israël est appelé la miséreuse tempétueuse, Aniya Sohara, qui est Marshav Tachat Memshelet Esav Ishtahir, parce qu'ils sont dominés actuellement par le gouvernement de Esaü, qui est l'homme velu, c'est-à-dire l'homme tempétueux, Bechinat Ruach Sehara Anal, qui est celui qui porte en lui ce souffle de tempête, achadavuk bat tzadikim, mais celui qui est lié au tzadik, mekabel aruach haim shlemut achisaron mea tzadik ve'arav digusha. Mais ça c'est vrai pour les rechaim, mais celui qui est lié au tzadikim reçoit son souffle de vie, le remplissage de son manque par le juste et le maître de la sainteté. Donc en fait, il y a une rivalité entre deux raves. Le rave de la Kedusha et le rave de la Touma. Alors là, il y a ici dans le chat, Kvod Harav, pourquoi peut-on passer sans problème du Sin de Se'ir au Samer de Se'ara? Tout simplement parce qu'en hébreu biblique, le Samer et le Sin s'interchangent. Par exemple, dans le El Adon al Kol HaMa'asim que l'on récite le jour du Shabbat, c'est selon l'alphabet. Or là-bas, écrit Semichim Betsetam Sassim Bevoam, c'est à la place du Samer, alors que c'est écrit avec un signe. De même, la femme infidèle est appelée dans la Torah Sota avec un signe, et dans la Mishnah Sota avec un Samer. Le mot Cheres, qui veut dire de la poterie, est écrit dans le Tanakh avec un signe, et chez les Chachamim avec un Samer. Étant d'autres exemples, et j'en passe. Voilà. Donc, Ve'alken, et c'est pourquoi. Alors, là, il y a ici tout un travail. C'est-à-dire, si c'est vrai qu'il y a le Rav de la Kedusha et le Rav de la Touma, donc il y a un travail maintenant pour le Rav de la Kedusha. Il doit s'occuper d'expier les péchés de ceux qui sont liés avec lui. Ve'alken, et ça c'est tout le travail donc du tzaddik. Ve'alken, ve'ish chacham yichaperena. Et c'est pour ça qu'il est dit, et l'homme sage, il expira, ki achisaron mechamat avonot, parce que les manques viennent des péchés. Que Moshe amu chachamenu zichrona livracha, comme on dit nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction, en mita belochet ve'nisurin belo avon. Il n'y a pas de mort qui ne soit pas liée à un péché, il n'y a pas de souffrance qui ne vienne pas d'une transgression. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, ou Fakad eti beshevet pisham ou vingaim avonam, ainsi qu'il est dit, je châtirai par la verge leur péché et par des plaies leur transgression. Ve'alken atzadik, amamshich ruach hachayim umashlim achisaron mechaper avon. C'est pour ça que le tzadik qui amène le souffle de vie pour compléter ce qui manque expie le péché. Vehu mi godel rachamanut bechaninut ma'abure itbarach shemo. Cela vient de la grandeur, de la miséricorde et de la grâce du Créateur, que son nom soit béni. Shetzimtzem atzmo, qui s'est réduit, liot a ruach chaim, de sorte que le souffle de vie soit etzel atzadikim, c'est qu'il soit présent chez les tzadikim. C'est-à-dire qu'en fait, le souffle de vie de Dieu devrait donner la vitalité à toute chose, de manière indifférenciée entre le bien et le mal, mais dans sa miséricorde, le Créateur a voulu que ce souffle de vie soit concentré chez les tzadikim. Dehainu shehem yekablu haruach chaim haTorah, c'est-à-dire qu'ils recevront le souffle de vie de la Torah, vehem mamshichim ruach haChaim velachesronot, et donc ils font écouler ce souffle de vie vers les lieux manquants. Uvaze mechaprim haAvonot, et c'est comme ça qu'ils vont expier les péchés. Alors, pourquoi est-ce que le souffle de vie expie les péchés? Ce n'est pas vraiment expliqué. Alors, je vais l'expliquer. Ça veut dire que la raison pour laquelle on pêche, c'est parce qu'on ressent un manque de vitalité. Le pêcheur cherche à se vivifier dans le lieu du mal, parce qu'il trouve dans le mal abondance de vitalité. Et quand il découvre qu'il y a une vitalité qui peut lui venir de la Kedusha, alors il renonce à la vitalité qu'il trouve dans le mal, et donc c'est comme ça qu'il va expier son péché. Souvent, d'ailleurs, ça revient à cette idée de Rabbi Nachman, que l'essentiel des chutes de l'homme vient de l'absence de joie. Et donc, quand il y a la joie, et cette joie est donnée par le souffle de vie, c'est alors qu'on peut rapidement et facilement se libérer du péché. Et c'est en fait ce qui est contenu dans les 13 attributs de miséricorde qui sont Hashem, Hashem, El Rachum, Vechanun, Erech Apaim, Dieu, Dieu, qui est miséricordieux et gracieux, Erech Apaim, et qui est patient. Alors c'est quoi cette patience de Dieu? La patience de Dieu, c'est le fait qu'il donne le temps au rachat de faire Teshuvah. Erech Apaim ou Bechina Tavuar. Quand on dit la longueur de narine, ou bien ce qui veut dire la patience, ou bechinat haruach, c'est en fait le souffle. Shumari ruché, il allonge sa respiration, bechinat anacha la chisaron, à la manière du soupir que l'on fait quand il manque de quelque chose, ve'aynu ve'rav chesed ve'emet. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il est grand en bonté et en vérité. Alors là, à nouveau, le jeu de mots, Vérav, Chesed, abondant en bonté, il va dire c'est le Rav, le maître de la bonté. On reçoit le souffle de vie du juste qui est le Rav, le maître de la sainteté, qui est Rav Chesed, le maître de la bonté. Efer, qui est le contraire, et là c'est dans l'incapacité de continuer, ah voilà. Voilà, c'est très bien. Efer, Esav, Rav de Klipa, Shuad Moni, qui est le contraire de Esav, qui est le maître de l'écorce, du mal, Shuad Moni, qui est rouge, Tokef Adin, qui est la puissance de la rigueur. Ve'ainu, ve'emet, et c'est pour ça qu'il dit, et vérité. Ki atzadik, mekabel ruach ha'chaim me'atorah. Parce que le juste reçoit son souffle de vie de la Torah, chez Nikret Torah Temet Aita Befu, dont il est dit c'est une Torah de vérité qui était dans sa bouche. Remarquez ici, c'est intéressant, vérité et bonté. C'est-à-dire, si c'est véritablement vrai, alors on pourrait dire si c'est absolument vrai, c'est donc la Midat Hadin, c'est la rigueur. Bien non, ce n'est pas la rigueur, c'est la bonté qui se cache dans la vérité. Et c'est pour ça que dans la suite, il est dit, il garde sa bonté pour les milliers. C'est quoi les milliers? À nouveau, la alafim, il s'agit des chefs de tribu de Esaü, Rav Revé Esav, Shem Rav de Klipa, qui sont les maîtres d'Esaü, qui sont le rabbin de la Klipa des forces du mal. Vezeu notzer chesed. Ça veut dire qu'il garde sa bonté chez Chesed Bechinat Arab Dikdusha, le Chesed qui appartient au maître du côté de la sainteté, Notser Umamtik Bechinat Aloufé Esav. C'est lui qui garde et qui adoucit ce qui vient des maîtres des Savres, Arevé et Save, Ve'alken nosé avon d'Afécha. Et c'est pour ça qu'il est capable de supporter la transgression et le péché, qui a lié des Ruach HaChaim Shlemut HaChisaron Shemamshichim Matzadik Ambedei Anacha, parce que grâce au souffle de vie qui vient compléter le manque que l'on amène, ce souffle, on l'amène du tzadik par le soupir, allié des zenit kaprima avonot, c'est comme ça que sont expiés les péchés, chez eux, brinat, bishracham, bichaprena canal, chez eux, nous servons le pécha, qui est l'homme sage qui expie et qui supporte le péché. Ça veut dire qu'en fait, ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est, si on traduit ça dans le concret, ça voudrait dire qu'un chassid qui a un rabbi, au moment où il soupire, il dit « oy va avoy », eh bien, il se relie à son maître. Et le maître, lui, est le gardien, il est le possesseur de ce souffle de vie qui lui vient de la Torah, qui est transmis à travers les 13 attributs de miséricorde, qui sont en opposition avec le Rav de Esav, et c'est comme ça que l'on peut réparer ses péchés. Donc, vous voyez l'importance du soupir. Le soupir, qui pourrait être considéré comme un événement secondaire de la vie de l'homme, prend ici une dimension, pourrait-on dire, presque cosmique. Veine, keshemitanear, et lorsque il soupire, mamshir, ruach hachaim et la chisaron, c'est comme ça que l'on amène un souffle de vie pour remplir son manque, shemitanear halav ou mashtimoto, pour lequel il soupire, et c'est comme ça qu'il le complète. Ça, c'est, j'arrive à le lire, bien que dans l'écran, le texte soit petit. Mais ça amène donc à l'agrandir. Très, très bien. Ah, les Hidgarot, Barishaïmi et Charles. Alors maintenant, il y a tout un problème. S'il y a opposition entre le tzadik et le racha, entre le maître qui est du côté de la sainteté et le maître de l'opposé, le maître du mal. Alors, est-ce que le tzadik a des chances de gagner? Alors là, on va voir que ce n'est vrai que pour ce qu'on appelle le tzadik gamour. C'est-à-dire, il faut être un tzadik qui n'a pas d'appartenance au mal du méchant. Et donc, pas n'importe quel tzadik peut s'attaquer au mal. Veine keshim achlid garot barishaim yefchar. Mais lutter, s'attaquer au Rechaïm, cela est impossible. Parce que le Racha, quand on l'attaque, lui aussi, il va soupirer. Et s'il soupire, le Racha, le méchant, ah, mais s'il n'a aucune appartenance au mal, comment peut-il le combattre sans le comprendre? C'est ce que nous allons voir par la suite. Et donc, le méchant, lui aussi, va soupirer et amener un souffle de vie de son maître à lui. Or, son souffle est grand au moment où il se produit. Et c'est pour ça que tous ses ennemis soufflent en eux et peuvent lui faire du mal. Dieu préserve, Haz v'shalom. Ve'alken lav kol adam echol itgarot b'reshaim. C'est pour ça que pas n'importe qui peut s'attaquer au reshaim. Imlo mishu tzadik gamur. À moins qu'il ne soit un tzadik absolu. Ve'tzadik gamur, un tzadik, j'ai traduit absolu, on peut dire un tzadik achevé. Ou keshehu bifrinat lo yene la tzadik kol aven. C'est celui dont on dit il n'arrivera aucun mal au juste. Da'inu shekvar ou bitel kolara shelo. Ça veut dire quoi? Il ne lui arrivera rien de mal. Il a supprimé tout le mal qu'il y avait en lui. Ad shebatu arshelo yeralo shum mirshol avera, au point qu'il soit assuré qu'il ne lui arrivera aucune embûche. Va'inyan. Alors, comment comprendre ça? C'est-à-dire, d'abord, c'est quoi le mal qu'il faut dominer? Et là, la question qui a été posée par Kossio est très importante. Comment est-ce qu'on peut supprimer le mal et à la fois lutter contre le mal? Si je n'ai aucune conscience du mal qu'il y a chez l'autre, je ne le connais pas, je ne peux pas non plus le dominer. Alors c'est ça que, là, on va rentrer dans un débat, dans un débat assez ardu, mais qui revient à des principes qui ont été expliqués par Rabbi Nachman dans les chapitres précédents. Vaïnyan, la chose est. Il y a quatre éléments qui sont le feu, le vent, l'eau et la terre. Alors, maintenant, c'est quoi ces quatre éléments? Les quatre éléments, ce n'est pas de la chimie antique. Effectivement, chez les Grecs, chez Aristote entre autres, on disait que le monde matériel est fait de quatre éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais chez nos maîtres, jamais on expliquait, enfin presque jamais, on ne parlait des éléments en tant qu'éléments physiques. Ce sont des éléments au niveau du psychisme. Mais donc, et c'est pour ça qu'il y a en chacun de nous, il y a un feu, il y a un air, il y a de l'eau, il y a de la terre. Ce sont les quatre mauvaises midotes que nous avons en nous, les défauts, qui sont par exemple le feu étant l'orgueil, le souffle étant la vanité, l'eau étant les plaisirs et la terre étant la paresse ou la tristesse. Mais dans leur origine, ce sont les quatre lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke. Ou les mata, mais en bas, il y a là-bas un mélange de bien et de mal. Vatsadik Gamour est le juste parfait. Qui a réussi à séparer le mal du bien totalement, au point qu'il ne lui reste aucun mal de ces quatre éléments, qui sont l'ensemble des vertus, comme on le sait, et quand on a réussi donc à faire le tri entre le bien et le mal qu'il y a dans les quatre éléments, Moutar Lidgarot, Bareshaim, on a le droit d'engager la lutte contre les Réchaïm. Ça veut dire qu'en fait, le tzaddik, qu'est-ce que l'air? L'air, c'est par exemple tout ce qui est lié à la parole. Alors, la parole, ça peut être le mensonge, la flatterie, mais ça peut être également des divrei Torah, ou bien des paroles d'ordre moral. D'accord? C'est ça, l'air. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le tzaddik, il est lié au bien et au mal, puisque aussi bien le bien que le mal viennent des quatre lettres de Dieu qui se traduisent en quatre éléments, mais il a réussi à séparer le bien du mal. Ve'ainyan, et cela veut dire qui colle racha ha'echrar she'elot sinor she'ikabel derecha maruar she'ul hashem marchisaron. Tout méchant a obligatoirement un canal par lequel il reçoit son souffle pour compléter son manque. Ve'atzino ou derech amidara me'arba yesodot shimshir ve'igbir. Et ce canal, ce tuyau, si vous voulez, cette conduite, vient de le défaut qui lui vient d'un des quatre ou des quatre éléments qu'il a agrandi. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, chez les Réchaïm, vous avez, par exemple, un culte de l'orgueil, ou bien un culte de la colère, ou un culte des plaisirs, ou un culte de la paresse. D'accord? Et c'est ça, donc, ça vient, c'est une conduite, un canal qui lui vient d'un des quatre éléments. C'est ça qui l'alimente et qui lui donne le souffle de vie pour compléter son manque. Et lorsque le juste veut l'abaisser, il est obligé de descendre vers ce mauvais caractère, shi'igbir alav haracha, que le racha a agrandi, le'achnia ou le'kalkel atzinorahu shel haracha, pour abaisser et détruire ce canal du méchant, shemekabel misham achayut shelo, d'où il reçoit sa vitalité. Ve'alken mukhrach, shi'yeh zeh hatzadik tzadik gamur. C'est pour ça que ce tzadik doit être un tzaddik parfait, Shen Bouchoumra, qui n'a pas de mal, les man loye koach la roar seara, afin que le souffle de tempête n'ait pas la force contre lui, Shiwa roar chaim shela racha, lishlot ou lazik ras de shalom, qui est ce souffle de tempête qui est la force du méchant, elle pourrait, si le tzaddik n'était pas parfait, lui faire du mal. Les tzaddik, pour le juste, be'et sheyored la mida racha, la racha le kalkela, quand il descend vers le défaut du racha pour le détruire. Ki en le arashum tisa v'achiza b'tzaddik agamur ven lo makom le echosbo, parce que le mal n'a aucune prise sur le tzaddik parfait, il n'a aucun lieu pour s'emparer de lui. Vegam me'amida rabbe atzma sheyored le'achnia en lo shum tisa chas v'shalom. Et également le défaut qu'il vient ou vers lequel il descend pour le détruire, il n'a aucune prise. Rak ma shiyored le tocha ou l'achnia ou l'ashpila. En fait, il descend là-bas uniquement pour l'abaisser. Bufrinat vayal Avram mimitzraim, ainsi qu'il est dit, Avram est monté de l'Égypte. Il y a une règle dans la halakha. C'est que si on sait qu'on a du chametz qu'on a laissé en place pendant Pessah, on découvre brusquement qu'on a oublié de faire la bdikat chametz, qu'on n'a pas fait le bitul chametz, et on sait qu'on a du chametz chez soi. Alors la halakha dit, il faut aller rechercher ce chametz pour le brûler. Question de la Gemara, oui, mais si il recherche le chametz pour le brûler, il risque de le manger. C'est peut-être plus grave donc de manger du chametz à Pessah que d'avoir du chametz chez soi à la maison. Réponse de la Gemara, étant donné que cette recherche a pour but de le détruire, donc il n'y a aucun risque qu'il ne le mange. C'est un peu ce que dit ici Rabbi Nachman, lorsque le tzaddik descend pour détruire la mauvaise mida du racha, eh bien, il le fait uniquement pour la détruire, donc il ne sera pas influencé. C'est pour ça qu'il est dit, il abaisse les méchants jusqu'à la terre. Rachet et Vot, ce sont les initiales. Esh ruach maim ve'afar, le feu, l'air, l'eau et la terre. Shehem kol arba yisodot, qui sont les quatre éléments. Shehem klal kol amidot, qui sont l'ensemble des midot. Chez Tzrichim Levarim Bevirur Gamur, qu'il faut trier absolument. Atchelo yiboshu machiza mishumra shebishu midam arba yisodot anal. Ve'azu tzadi gamur. Il faut se débarrasser totalement de toute influence du mal. Ve'az daika kshemavdi laram arba yisodot eshruach ma'im afar. C'est alors que lorsqu'il se sépare des quatre éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, az ou mashpil rechaim adéaret, c'est alors qu'il peut abaisser les rechaim jusqu'au sol, canal, mashen ken tzadik shenogamo, ce qui n'est pas le cas du tzadik, qui n'est pas entier, af shen lo shum avera, bien qu'il n'ait fait aucun péché, afal pichen adain lo yvdi lara le gamre, mais il ne s'est pas entièrement séparé du mal, vehara adain bekoach, et le mal était encore en lui en potentiel. Ve'alken asurlo litgarot barishaim, et lui n'a pas le droit de lutter contre les rishaim. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de péché, mais il risque de pécher. Ki yesh makom lara le'echosbo, parce que le mal peut encore s'emparer de lui, viucha le'aziklo, et lui faire du mal, chas v'shalom, ha'arichut ruach, viucha le'aziklo, chas v'shalom, ha'arichut ruach shel haracha, et c'est ce que peut lui faire du mal, la patience du méchant Shu Gadol Beshaato, qui est grand en son temps, Bifrinat War Sehara, et que à la manière de la tempête dont on a parlé plus tôt. Alors il y a aussi deux questions. Mais donc quelqu'un considéré de grand qui s'offusque ou a peur de certaines questions n'est donc pas un tzaddik gamour. C'est vrai. Maintenant il y a ici Félicia qui a levé la main. Félicia a levé la main. Alors allez-y.
Est-ce que c'est le temps de poser la question parce
que je sais pas. Oui, vous allez poser la question parce qu'on va bientôt arrêter le cours et on va continuer la prochaine fois. Allez-y.
Ok. Et ma question est pourquoi, d'un côté, il parle de Esav. Est-ce qu'il parle d'Esav parce qu'il vit entouré de Olam, d'Edom, de catholicisme, ou pour lui, Esav, c'est la civilisation occidentale et tout ce qui est autour? Ou est-ce que c'est aussi oui. une sorte Esav Pnimi?
Bon, c'est un emblème, c'est vrai de tout. C'est vrai de tout. Et la David Altar a une question. Oui, allez-y.
Et la deuxième question,
oui.
Les Arba Yesodot, mais
oui.
elles sont dans chacun de nous.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais on peut les purifier. C'est-à-dire, il y a du bien et du mal dans chacun des quatre éléments.
Est-ce qu'elles sont liées à notre moment de naissance ou est-ce qu'elles sont liées...
Non, ce sont des données du Nefesh, mais ça n'a rien à voir avec l'astrologie.
Astrologie, ok.
Non. David
okay. Ah, le Rav, il ne parle pas du tout des chassidim, en fait.
Si, il parle des chassidim. Il a dit quand on a un maître. Or ici, il s'agit du maître à la manière des chassidim, évidemment.
Mm-hmm.
Ouais. Ah, ok.
Ok.
Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je pense qu'il est déjà le temps d'en finir, et on continuera, Bezrat Hashem, la prochaine fois. D'accord ?
Toda
Rabba Rav, Shavua Tov.